l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Séoul au jour le jour. Demain, comme vous le savez sans doute, le pays du matin clair célèbre le Solnal, le jour du nouvel an lunaire. Et alors que les habitants peuvent enfin profiter de quelques beaux jours de repos, même s'ils sont incités à rester chez eux dans le sillage du coronavirus, les travailleurs du secteur médical, eux, vont passer une journée comme une autre. Sans plus attendre, allons découvrir ensemble comment va se passer la fête traditionnelle dans le centre médical de Séoul. Cet établissement hospitalier, situé dans le nord-est de Séoul, a accueilli son premier patient atteint du Covid-19 le 30 janvier 2020. Depuis, 2514 personnes s'y sont fait soigner, et depuis cette date aussi, le personnel n'a pas vraiment eu le moindre moment de répit. Pendant les vacances du Nouvel An, 330 employés vont y travailler quotidiennement, dont l'infirmier Che Gui-hun. Déjà, lors des derniers Solnal et Chuseok, la fête des récoltes de l'année dernière, le jeune homme de 27 ans n'avait pas pu voir ses parents qui vivent dans la province de Gyeongsang du Sud. C'est donc la troisième fête conventionnelle qu'il passe à l'hôpital. La plupart des malades ont l'âge de sa mère ou de sa grand-mère et le Sud-Coréen a indiqué qu'il allait faire en sorte de devenir leur fils et petit-fils jusqu'à la fin de l'épidémie. Pour le jour du Nouvel An, il craint la contamination entre les membres de même famille. Pas mal de patients dont il s'est occupé ont attrapé le virus de cette manière et il lui est déjà arrivé de soigner des membres de trois générations d'une même famille dans la même salle. Mais ceux qui doivent renoncer à leurs vacances ne sont pas seulement le personnel médical. C'est le cas de la cuisinière Kim Eun-hwa, qui va continuer à préparer des paniers repas des patients. Et pour tenter de rendre leur hospitalisation moins difficile, outre des repas de qualité, la femme de 56 ans pense même à l'harmonie des couleurs de chaque plat quand elle décide d'un menu. Car comme les malades confinés dans l'établissement n'ont pas beaucoup de divertissement, un joli repas peut leur donner un petit plaisir de la vie quotidienne. Les repas des patients du coronavirus varient en fonction de leur état de santé et affections sous-jacentes, et elle doit en préparer 10 sortes différentes. Le petit déjeuner de demain sera du tteokguk, une soupe avec des morceaux de gâteau de riz comme le veut la tradition. Han Young-im, technicienne de laboratoire médical de 36 ans, a elle aussi passé une éprouvante année comme tous ses collègues. Elle est en charge de l'analyse des échantillons prélevés pour le test du dépistage. Étant donné que ce travail présente un haut risque de contamination, elle porte souvent une combinaison de protection. Pourtant, pour elle, ce qui est le plus étouffant, ce n'est pas cette tenue, mais l'épidémie qui ressemble à un long tunnel sans fin. Et depuis l'année dernière, Anne n'a pas pu rencontrer ses parents qui résident en province. Elle garde cependant espoir de voir la situation s'améliorer rapidement pour pouvoir célébrer le 70e anniversaire de son père l'année prochaine. Enfin, Song Kwan-hyung, le directeur du centre médical de Séoul, a remercié les employés qui continuent à s'investir pour chaque patient, même pendant les fêtes, et a exhorté la population à éviter les contacts physiques jusqu'à ce que l'immunité collective soit développée grâce à l'aide du vaccin. Pendant les vacances de Solnal, il est interdit de manger dans les grandes aires de repos des autoroutes sur tout le territoire. Les voyageurs doivent donc acheter des repas emballés et les engloutir, soit sur les tables en plein air, ou soit dans les voitures. Ce dispositif a été pris par la Société nationale de l'autoroute de Corée, dans le but de prévenir la propagation du coronavirus. Le gouvernement, de son côté, a conseillé d'éviter de se déplacer pendant la fête traditionnelle et de rester dans les structures fermées le moins de temps possible. Selon le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Transports, les déplacements des habitants devraient reculer de 32,6% pendant les vacances par rapport à celle de la même période l'année dernière. Malgré cela, certains citoyens sont obligés d'effectuer des trajets longue distance pour diverses raisons. Et 201 aires d'autoroute du pays proposent des plats à emporter. Les magasins en extérieur qui vendent des snacks comme des gâteaux aux noix et des brochettes restent ouverts. Le gukpap, une soupe chaude avec du riz, et les udong, une soupe de grosses nouilles, les deux plats les plus prisés des voyageurs, ne font pas partie des menus à emporter à cause des risques de brûlure. Le plat le plus facile à acheter est bien sûr le kimbap, un rouleau de riz contenant divers ingrédients enroulés dans une grande feuille d'algues séchées. Même si on l'ingurgite dans la voiture, aucune forte odeur ne subsiste. Certains aires de service proposent également un kimbap signature. Celle de Tokpyong, par exemple, s'est inspirée du bibimbap et a assaisonné son riz avec de la purée de piment. Tandis que celle de Gunsan y a ajouté du walkwa, une sorte de melon en saumure pour se différencier. D'autres centres proposent des spécialités de leur région comme repas. À l'ère de Chuncheon, on peut goûter un panier de takgalbi, du poulet épicé sauté, et à celle de Andong, du maquereau grillé produit dans la ville. Ce dernier jouit d'une réputation particulière pour avoir été sélectionné plusieurs fois comme le meilleur repas des plats des aires de repos par la société chargée de la gestion des voies rapides. Et pour ceux qui n'ont pas très envie de cuisine coréenne, d'autres aires proposent des plats chinois ou des mets occidentaux comme le risotto. Le jour du nouvel an lunaire, la famille royale de la dynastie Joseon avait coutume de coller des peintures sur la porte principale du palais. Ces dessins sont appelés Munbedo et ont été considérés comme chassant le mauvais sort et attirant la chance. À la base, ils étaient faits par l'Institut national chargé de la peinture. Mais à la fin de l'ère de Joseon, ces mœurs ont été popularisées et pratiquées par le peuple. Selon Dongguk Sechigi, le livre expliquant les coutumes traditionnelles du royaume, les dessins sont composés de deux généraux au visage menaçant et vêtus d'une armure dorée. L'un porte une hache à la main et l'autre un drapeau. Ces peintures feront de nouveau leur apparition en 2021. L'administration de l'héritage culturel les accroche sur Gwanghwamun, l'entrée principale du palais royal Gyeongbokgung, pendant les vacances du nouvel an lunaire, à savoir à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce week-end. Elle a souhaité que cette exposition permette d'encourager les habitants épuisés par l'épidémie du nouveau coronavirus. Normalement, les dessins sont faits sur papier, mais pour éviter d'abîmer la porte lors du décollement, ils ont été reproduits sur une banderole en toile. La reproduction de ce patrimoine historique était possible grâce à la découverte d'une vieille photo de 2015. Lors de la restitution de la légation de l'Empire de Daehan succédant à Joseon à Washington, ayant été publiée dans l'édition de juillet 1893 du magazine américain Demarest Family, l'image montrait l'intérieur de la structure dont une photo de Gwanghwamun accrochée sur le drapeau coréen étendu sur le mur. Les experts estiment que les officiels coréens envoyés dans la capitale américaine ont fait exprès de les installer dans la direction du nord qui symbolise le roi pour rendre hommage à leur pays natal. La Fondation du patrimoine culturel coréen d'outre-mer a trouvé ce cliché original dans la bibliothèque du Congrès des États-Unis. L'image qui serait prise entre 1881 et 82 arborait bien les Munbedo, mais ces derniers étaient visibles seulement d'un tiers et la partie basse était déchirée. Ce qui montre que les ancêtres coréens ne les enlevaient pas même s'ils étaient abîmés par la pluie et le vent. Pour la reproduction de l'image, l'administration a fait référence au tableau conservé dans Hwagyeongdang, une ancienne maison dans le village folklorique de Hawei. Ceux-ci ont été utilisés dans la maison d'un habitant, mais ce sont les seules peintures de ce type qui gardent leur forme originale.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 11 février. Un matin du mois dernier, un train tout neuf, bleuâtre, est arrivé à la gare d'Osong dans la province de Chungcheong du Nord. Contrairement au train KTX à surface mate, sa couleur lustrée qui brille au soleil rappelle le Changja, la poterie bleue fabriquée au royaume de Goryeo. Ce nouveau modèle est le KTX IEM, la première rame automotrice électrique développée par la Corée du Sud. C'est-à-dire que chaque véhicule est propulsé par son propre moteur. L'entreprise Hyundai Rotem a réussi à le concevoir avec 100% de technologie sud-coréenne. Parmi 19 rames commandées par Corail, l'équivalent de la SNCF, 5 sont en service et le reste sera livré d'ici la fin de l'année. Pendant la marche d'essai, ce nouveau type de train à grande vitesse a circulé entre Osong et Dongdaegu à la vitesse de 230 km/h. La première différence que l'on peut remarquer est que les cabines de conduite situées à l'extrémité partagent le même wagon que celui des passagers, car le train n'a plus besoin de locomotives séparées qui alimentent le moteur pour tracter tous les wagons. Il est donc capable de transporter 25% de passagers en plus par rapport au KTX Sanchon, le précédent modèle. Il est aussi plus respectueux de l'environnement, en consommant seulement 80% de l'électricité nécessaire que son ancien modèle. Le prix d'une rame s'établit à 3,4 milliards de won, soit 2,5 millions d'euros, donc plus compétitif que le dernier modèle de Shinkansen N700S, dont le prix est de 2,9 millions d'euros. Mais quels sont ces autres avantages qui le différencient des autres trains ? Eh bien, son plus grand point fort réside dans sa capacité d'accélération. Pour atteindre la vitesse de 100 km/h, il prend seulement 45 secondes, soit 17 secondes plus vite que le KTX Sanchon. C'est un grand avantage dans le pays du matin clair où la distance entre les gares est plutôt courte. L'intérieur des wagons est également évolué. Chaque siège a sa fenêtre et son store et il est doté de chargeurs sans fil de smartphone ainsi que de prises électriques 220 volts. L'espace entre les sièges s'est aussi élargi pour permettre un voyage plus confortable. Si la Corée du Sud s'est lancée dans le développement de l'élément automoteur électrique, c'est parce que ce type de train est très popularisé dans le monde. Il représente 75% du parc mondial des trains à grande vitesse. Donc pour participer à une concurrence rude entre le Shinkansen du Japon et le CRH de la Chine et décrocher des commandes dans les projets de chemin de fer qui sont en cours au Moyen-Orient et dans les pays d'Asie du Sud-Est, il est essentiel d'accumuler les expériences de circulation commerciale des rames. Un responsable de Hyundai Rotem s'est dit fier que la Corée du Sud, qui a auparavant appris les techniques du constructeur ferroviaire français Alstom, révèle désormais le défi sur le marché mondial. La semaine dernière, la police de l'arrondissement de Yeongdong-po à Séoul a reçu un appel d'un citoyen qui a déclaré avoir vu un navire espion nord-coréen près du pont Sangsan, un pont qui traverse le fleuve Han. Les policiers ont alors immédiatement contacté le bureau de gestion de la rivière pour vérifier les faits, mais le bateau en question était en fait une simple barge d'un pêcheur emporté par le courant. Selon un responsable, 3 jours avant cet appel, le bureau avait découvert ce navire à flot et l'avait amarré à un quai. Les services en question ont finalement retrouvé son propriétaire quelques heures avant cette déclaration. La barge de 10 mètres de large et 5,5 mètres de haut avait sur elle seulement une masse de filets de pêche vide. Servant à transporter les outils de pêche sur la rivière et la terre, elle a une apparence bien différente des navires de pêche. C'est pourquoi le déclarant a cru à tort que c'était un véhicule d'espionnage. Après investigation, la police a conclu que le navire n'avait aucun lien avec un quelconque service d'espionnage nord-coréen et l'a rendu à son propriétaire. La péniche appartenait à Han Sang-won, pêcheur de Hangju, dans la ville de Gohyang, située en aval du fleuve. Selon le sud-coréen de 63 ans, il avait attaché solidement sa barge avec 4 cordes à mi-novembre dernier. Mais à mesure que l'eau du fleuve gelée a fondu, les cordes se seraient détachées et le navire aurait été emporté de 10 km en amont du fleuve à cause des grands vents et de la marée haute. Après l'appel des services en question, Han s'est déclaré satisfait d'avoir retrouvé sa barge car sinon il aurait pu perdre des filets d'une valeur de 11 000 euros et le bateau de 7 500 euros. À propos de la méconnaissance sur la barge, un collègue s'est rassuré que ses compatriotes soient dotés du civisme et vigilants à l'apparition d'un danger. Un plombier âgé de 50 ans a trépassé après avoir sauvé la vie de 6 personnes en leur donnant ses organes. Selon l'agence du don d'organes de Corée, CODA, Kim Sang-il, qui vivait à Ulsan, s'est fait traiter depuis 2020 d'une maladie chronique. Le 29 janvier dernier, il a perdu conscience et a été transporté à l'hôpital. Il avait une hémorragie cérébrale et a subi une intervention, mais 5 jours plus tard, il s'est retrouvé en état de mort cérébrale. Donner des organes d'un membre de famille décédé n'est pas une décision facile à prendre, mais sa famille n'a pas hésité. Elle a été convaincue par un médecin de l'hôpital de Donggang qui lui a expliqué qu'offrir une nouvelle vie aux autres pourrait donner un sens important à son décès. Le Sud-Coréen a donc fait greffer son cœur, ses poumons, son foie et ses reins. D'après le frère du défunt, Kim Song-yong, le donneur était quelqu'un qui ne pouvait pas ignorer les gens dans le besoin de son vivant. Parfois, il réparait les tuyaux d'eau gelée en hiver chez un client qui vit dans la pauvreté. Pour sa famille, qui connaît bien sa nature, il préférait sans aucun doute sauver le plus de personnes s'il avait le choix. Et c'est pourquoi il était d'accord pour le don d'organes. À en croire le coordinateur de la CODA qui a guidé la famille de Kim pendant la procédure de don, celle-ci l'a remercié d'avoir sauvé autant de personnes, ce qui l'a surpris et en même temps encouragé. Le défunt a été enterré la semaine dernière dans le cimetière familial de Muhan. Selon le frère de Kim Sang-il, il se sentait consolé par le fait que même si le défunt a quitté ce monde, son âme est toujours vivante à travers les receveurs. Et il a souhaité que beaucoup de gens se souviennent de lui comme de quelqu'un qui avait bon cœur.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, très heureux de vous retrouver pour Bon Plan de Sortie, votre émission du jeudi qui vous fait découvrir les événements les plus captivants du pays du matin clair, le tout en 5 minutes chrono. Quatre événements de quatre genres différents sont au programme cette semaine. Nous irons tout d'abord applaudir les jeunes musiciens qui traversent une période difficile en raison de la crise sanitaire. Nous nous installerons ensuite dans les sièges confortables du Lotte Concert Hall pour un concert de musique classique. Puis nous profiterons du chant et de la danse de la troupe Seoul Performing Arts Company. Mais avant cela, direction le quartier des théâtres de la capitale pour une comédie musicale occulte. Bon plan de sortie, c'est parti! La pièce The Priest sera présentée du 25 février au 30 mai au Uniplex Hall 1 situé dans le quartier de Daehangno à Séoul. Il s'agit de l'adaptation du thriller sud-coréen éponyme réalisé par Chang Jae-hyun avec comme acteurs principaux Kang Dong-won et Kim Yoon-suk, sorti en salle en 2015. L'œuvre raconte l'histoire de deux prêtres catholiques, le père Kim et le diacre Choi. Ils tentent d'exorciser et de sauver une jeune fille nommée Yang Shin qui souffre d'une mystérieuse maladie après avoir été percuté par une voiture. Dans cette comédie musicale écrite et composée par Han Jae-eun et mise en scène par Kim Tae-hyung, on trouvera dans le rôle du diacre Choi Kim Kyung-soo et Kim Chan-ho, et dans le rôle du père Kim, Lee Kon-myung et Song Yong-jin. Le Young Musicians Festival, qui propose une série de concerts de jeunes musiciens sud-coréens prometteurs, se déroulera du 14 au 19 février au Yongsan Art Hall, situé dans le quartier de Yoido à Séoul. Durant 5 jours, quelques 70 jeunes musiciens, des écoliers aux étudiants, interpréteront diverses œuvres de musique classique avec leur instrument, piano, violoncelle ou violon, hautbois, clarinette ou encore la flûte. Le festival, créé en 1984, fête cette année sa 38e édition. C'est un événement par excellence qui permet au public de découvrir de talentueux musiciens en herbe et à ceux-ci de faire l'expérience de la scène. L'Orchestre Philharmonique de Séoul donnera un concert les 18 et 19 février au Lotte Concert Hall situé dans le sud-est de la capitale. Dirigé par le jeune chef d'orchestre hongkongais Wilson Ng, la formation musicale interprétera en première partie de soirée les variations sur un thème de Paganini de Boris Blacher, suivi du concerto pour piano de Scriabine avec le pianiste sud-coréen Im Dong-hyuk. En deuxième partie, on entendra la symphonie Matisse le peintre de Paul Hindemith. Le programme sera le même pour les deux soirées. Âgé de 36 ans, le pianiste Im Dong-hyuk a été formé au conservatoire Tchaïkovski de Moscou et à la Juilliard School à New York. Il a été révélé au grand public lors de l'édition 2005 du concours international de piano Frédéric Chopin, où il a remporté le troisième prix ex aequo avec son frère aîné Im Dong-min. Et on termine avec un spectacle qui mêle le chant et la danse. Hyanghua sera présenté du 19 au 21 février au Kyanggi Art Center dans la ville de Suwon. La pièce jouée par la Seoul Performing Art Company est basée sur l'histoire vraie de la militante indépendantiste Kim Hyanghua, qui était une giseng, c'est-à-dire une dame d'agrément dont le rôle est de tenir compagnie aux personnalités de haut rang et de les divertir. Née en 1897 à Séoul, elle devient giseng à l'âge de 18 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. En 1919, elle est à la tête d'un groupe d'une trentaine de giseng pour protester contre l'occupation japonaise dans la ville de Suwon. Elle est arrêtée par les autorités japonaises et incarcérée dans la prison de Sodaemun à Séoul où elle subit des tortures. La troupe régalera le public notamment avec des danses collectives traditionnelles telles que le Janguchum, la danse des tambours, ou encore le Gommu, la danse des épée. Voilà, cette édition de Bon Plan de Sortie est maintenant terminée. Nous vous rappelons qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, il est recommandé de bien vérifier si les événements auxquels vous souhaitez vous rendre ont toujours lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous jeudi prochain.
C'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Lee Ji-eun à la rédaction avec Ho Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée.